valeur HI 203 et 209, initiation à l'histoire du Moyen-Âge. Première cassette, deuxième phase, présentée par Monsieur Neveu.
L'expansion franque. Le peuple franc est l'un des derniers à envahir la Gaule et l'un des plus timides au Ve siècle, bien qu'il ait vécu dans une longue familiarité avec les Romains. Le peuple franc va cependant éliminer tous ses rivaux et constituer le seul royaume barbare durable de la Gaule. Ce succès tardif est d'abord l'œuvre d'un homme, Clovis. C'est lui qui va transformer un petit royaume franc, parmi d'autres, en un vaste état englobant presque tout le territoire de l'ancienne Gaule et une partie de l'ancienne Germanie. Malheureusement, l'histoire de Clovis, si elle est célèbre et entrée dans la légende, n'est pas très bien connue par manque de sources. Il a d'ailleurs donné lieu à des controverses parmi les historiens du XXe siècle. Bien entendu, la personnalité de Clovis n'explique pas à elle seule l'ampleur de ses succès. Il a pris le relais d'une expansion franque très importante dans le nord de la Gaule. Il a profité de circonstances favorables. Il a bénéficié de l'appui de la seule force du monde romain qui conservait sa puissance, et l'Église catholique. La prise en compte de ces facteurs est indispensable si l'on veut comprendre l'exceptionnelle réussite de ce personnage. Nous allons subdiviser ce cours en trois parties. Premièrement, les Francs avant Clovis. Deuxièmement, le règne de Clovis. Troisièmement, le royaume franc après Clovis. Première partie donc, les Francs avant Clovis. Vous avez deux textes qui concernent l'origine des Francs. Il s'agit des premiers rois francs, un texte de Grégoire de Tours, et des origines troyennes des Francs, un texte d'un personnage inconnu qu'on appelle le pseudo-Frédéguer. Je ne vais pas étudier ces textes dans le détail, mais lisez-les attentivement. Vous pourrez vous-même faire une critique de ces textes et vous vous rendrez compte que Grégoire de Tours est un auteur de valeur qui nous apporte un certain nombre d'informations, pas autant qu'on pourrait le souhaiter, mais quelques informations solides, et qui utilise le conditionnel lorsqu'il ne sait pas. En revanche, le pseudo-Frédéguer est un auteur beaucoup moins sérieux, d'ailleurs beaucoup plus tardif, puisque Grégoire de Tours écrit au VIe siècle et le pseudo-Frédéguer à la fin du VIIe siècle, et vous allez voir qu'à partir de Grégoire de Tours, cet auteur brode et invente des origines tout à fait légendaires aux Francs, puisqu'il les fait descendre de Troie, des Troyens, selon la légende issue de Virgile. Alors, revenons à la réalité. Que savons-nous? Peu de choses à vrai dire. Le nom même de Franc, en latin Franci, n'apparaît que tardivement, vers 240, dans un champ de marche de l'armée romaine. La signification même de ce nom est incertaine. D'après M. Musset, il signifierait « hardi, courageux » et viendrait du vieux nordique « frecre ». L'idée la plus généralement admise, c'est que les Francs sont issus du regroupement d'un certain nombre de petits peuples que l'on connaît depuis longtemps sur les bords du Rhin. Par exemple, les Chamaves, les Bructères, les Ancivariens, les Chattes et les Sicambres. Ce qui est certain, c'est qu'il y eut toujours des sous-groupes à l'intérieur des Francs. Nous en connaissons au moins deux, les Francs Saliens, il s'agit du groupe de Clovis, qui apparaissent pour la première fois vers 430 dans la Notitia Dignitatum. Plus tard, cette appellation va passer du sens ethnique au sens juridique et être utilisé dans la loi salique. L'autre groupe, on l'a longtemps appelé franc ripuaire. En réalité, cette appellation est assez tardive. Elle n'apparaît qu'au 8e siècle. Il vaut mieux utiliser l'appellation de franc du Rhin qui apparaît dès le 5e siècle. En tout cas, l'expression politique de ce groupe est le royaume franc de Cologne. Vous pouvez consulter la carte qui vous a été remise, la carte de l'expansion franque qui marque les différentes étapes de la progression de cette population. Car les Francs avaient pénétré dans l'Empire romain bien avant Clovis. Il y a, dès le IVe siècle, plusieurs formes de pénétration. D'abord, l'armée. On connaît de nombreux corps auxiliaires francs, et aussi de nombreux officiers francs à titre individuel. D'autre part, la colonisation des régions frontalières par les Francs est un phénomène mal connu, mais d'une importance fondamentale. Les Romains ont introduit dans l'Empire de nombreux prisonniers francs qui leur ont permis de repeupler certaines régions. Par exemple, les gens qu'on appelle des lettes, laiti en latin. Il semble même qu'au IIIe siècle, les Romains aient abandonné la partie nord de la Gaule, peut-être à des Francs. En tout cas, en 407, lors de la Grande Ruée, les Francs ne participent pas à l'attaque de l'Empire. Ils sont plutôt aux côtés des Romains, parmi les défenseurs. Mais très rapidement, évidemment, ils vont profiter des circonstances et changer de camp. On en trouve un certain nombre, par exemple, qui attaquent Trèves peu d'années après la Grande Ruée de 407. Venons-en à la famille de Clovis. Ses ancêtres sont très mal connus. Vous avez vu dans le texte de Grégoire de Tours, Clodion, qui est mentionné, et dont le pseudo Frédéguerre fait l'ancêtre de Clovis. En fait, c'est un chef franc, probablement un roi de Cambrai, qui n'a rien à voir avec la famille de Clovis. Vous avez l'ancêtre mythique, Mérové, ancêtre éponyme, qui a donné son nom à la famille, mais on n'est pas du tout sûr de son existence historique. L'histoire des Francs ne commence véritablement qu'avec Childéric, le propre père de Clovis. C'est, au 5e siècle, le roi franc de Tournai. Il apparaît vers 457 à la tête d'un corps auxiliaire de l'armée romaine sous les ordres d'Egidius, maître de la milice et chef de l'armée romaine qui stationne encore au 5e siècle dans le nord de la Gaule. Vers 463, il combat toujours dans la même armée contre les Visigoths vers Orléans. Et vers 468, encore dans la même armée, mais sous la direction du comte Paul, successeur d'Egidius, il combat les Saxons. Il est mort vers 481 à Tournai, et son tombeau a été retrouvé au XVIIe siècle. Nous savons qu'à l'époque de Childéric, il y a d'autres rois francs, notamment les rois de Cambrai et de Cologne. Le règne de son fils Clovis est beaucoup mieux connu grâce à Grégoire de Tours. Grégoire de Tours, né à Clermont-Ferrand vers 540 et mort vers 593, appartient à une famille de l'aristocratie sénatoriale. Il a fait une carrière ecclésiastique en devenant notamment évêque de Tours et il est le principal écrivain, le principal historien de l'époque avec son Histoire des Francs. C'est le seul auteur à nous donner une histoire complète de Clovis et à établir une chronologie. Malheureusement, sa chronologie est quelque peu sujette à caution, puisque selon lui, les événements se déroulent de façon régulière tous les 5 ans. Il serait né vers 465. Nous connaissons son père. Sa mère est Bassina, d'origine thuringienne. Le premier événement a lieu 5 ans après son avènement, situé vers 481, alors qu'il n'a encore que 15 à 17 ans. Donc le premier événement a lieu l'an 5 de son règne, c'est-à-dire vers 486. À ce moment-là, à partir du petit royaume de Tournai qu'il possède, il attaque Syagrius. Syagrius est le fils d'Egidius et le successeur du comte Paul. Il est à la tête, après la disparition officielle de l'Empire romain, il est à la tête de ce vaste territoire encore possédé par les Romains, entre la Somme et la Loire. Vous pouvez le voir sur la carte. Il réside à Soissons. Pour attaquer ce personnage et son armée, Clovis éprouve le besoin de s'allier à d'autres rois francs, notamment à Ragnacaire, roi de Cambrai, et à Chararic, un autre roi, qui refuse d'ailleurs de lui accorder son aide. Syagrius est vaincu. Il trouve refuge auprès du roi des Visigoths, Alaric II, dans sa capitale, Toulouse. Mais Alaric II, craignant la nouvelle puissance de Clovis, lui livre Syagrius, qui est rapidement assassiné. C'est là que se situe le célèbre épisode du vase de Soissons. Nous arrivons ensuite, toujours selon Grégoire de Tours, à l'an 10 du règne, c'est-à-dire 491. C'est une campagne contre les Thuringiens. Et vous voyez qu'après avoir agrandi son royaume vers l'ouest, Clovis se retourne vers l'est. Il profite d'ailleurs probablement des liens qui l'unissaient avec cette région, puisque sa mère en était originaire. C'est peu de temps après, sans qu'on sache la date précise, qu'il se marie avec Clotilde, une princesse burgonde. Or, Clotilde est catholique, et la religion de sa femme va jouer un rôle fondamental dans son histoire. Lui-même est païen, et contrairement à beaucoup d'autres barbares, il n'a pas embrassé la religion arienne. Dès leur mariage, Clotilde s'efforce de convertir son mari. Malheureusement, ses efforts restent longtemps sans succès. Il faut attendre, toujours selon Grégoire de Tours, l'an 15 du règne, c'est-à-dire 496. À cette époque a lieu une campagne contre un peuple voisin vers l'est, c'est-à-dire celui des Alamans, qui sont installés sur le Rhin, entre l'Alsace et le Bade-Württemberg actuel. D'après Grégoire de Tours, lors de cette bataille contre les Alamans, Clovis est dans une position difficile. Il fait appel alors à Jésus, que Clotilde proclame être le fils du Dieu vivant. Et il promet de se convertir en cas de victoire. Aussitôt, les Alamans prennent la fuite et leur roi est tué. Pour Grégoire de Tours, l'intervention divine ne fait pas de doute. On peut expliquer évidemment la victoire autrement, en particulier par la mort du roi, qui est un élément décisif en faveur de Clovis. Peu après cette bataille, Clovis est instruit par l'évêque de Reims, Rémy, et baptisé avec 3000 de ses guerriers. Autrement dit, la conversion de Clovis au catholicisme entraîne la conversion de son peuple. Je m'arrête un peu sur cet événement pour évoquer d'autres documents qui introduisent des doutes concernant la datation de Grégoire de Tours. En effet, nous possédons une lettre de Théodoric à Clovis, rédigé d'ailleurs par Cassiodore, il s'agit de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, cette lettre est un plaidoyer en faveur des Alamans vaincus. Elle coïnciderait tout à fait avec les événements, mais elle date de 506, c'est-à-dire 10 ans après la date proposée par Grégoire de Tours. Le second document est une lettre de saint Avit, évêque de Vienne, qui fait allusion à la conversion de Clovis, c'est-à-dire une lettre de félicitations pour cette conversion. La seule précision qu'elle apporte, car elle n'est pas datée malheureusement, c'est le jour du baptême. Le jour de baptême, c'est le jour de Noël, ce qui est tout à fait inhabituel à cette époque, où l'on baptisait généralement pendant la nuit de Pâques. C'est donc un élément incontestable. Clovis a été baptisé le 25 décembre, mais l'année est incertaine, entre 496 et 506. Revenons à la chronologie de Grégoire de Tours. En 500-501, l'an 20 du règne, c'est une campagne contre les Burgondes. Le royaume burgonde est divisé à cette époque entre deux rois qui sont les oncles de Clotilde, Gondebaud et Godégisel. Clovis soutient l'un des candidats contre l'autre, mais malheureusement pour lui, il choisit le mauvais candidat, Godégisel, c'est lui qui est battu et Clovis doit se retirer sans profit de la Burgondie. L'an 25 du règne maintenant, 507, ça c'est une date incontestable, c'est une campagne contre les Visigoths et une grande bataille remportée par les Francs à Vouillé en 507 donc. Les Visigoths sont vaincus, leur roi Alaric II est tué. Clovis peut donc s'emparer d'un très vaste territoire situé entre la Loire et les Pyrénées, comme vous pouvez le voir sur la carte. Grégoire de Tours ajoute que Clovis avait près de lui Clodéric, fils de Sigebert le Boiteux, et qu'il était devenu boiteux, ce roi, parce qu'il avait reçu une blessure à Tolbiac, dans la bataille contre les Alamans. En tout cas, à la suite de cette bataille, Clovis a doublé l'étendue de son royaume. Voyons maintenant la fin du règne. Grégoire de Tours nous décrit 3 événements. Clovis aurait reçu de l'empereur d'Orient Anastase un titre honorifique sur lequel on ne sait pas grand-chose. Deuxième événement, Clovis s'installe à Paris dont il fait sa capitale. C'est très important pour le destin ultérieur de cette ville. Troisième événement, Clovis se débarrasse des petits royaumes francs qui subsistaient encore auprès de son grand royaume. Pour le royaume de Cologne, il se débarrasse du roi par la ruse, puisqu'il fait tuer le père Sigebert par le fils, Clodéric, et ensuite il fait secrètement tuer Clodéric avant de se présenter en sauveur aux francs de Cologne. Pour le royaume de Chararic, c'est une méthode plus douce au départ, puisqu'il se contente de le tondre. Vous l'avez vu dans le texte, les cheveux longs étaient le symbole même du pouvoir. Donc, quand on coupait les cheveux à un roi, on lui enlevait tout pouvoir. Il le fait donc tondre, et pour plus de sûreté, le fait ordonner prêtre. Mais quand il apprend, quelque temps plus tard, que Chararic se laisse repousser les cheveux, il le fait tuer, ce qui est une méthode plus radicale. Enfin, le royaume de Ragnacaire, royaume de Cambrai. Ragnacaire a droit à plus d'égards. Il est battu puis tué de la propre main de Clovis. On en arrive enfin à la 30e année du règne, c'est-à-dire en 511. Clovis meurt à Paris. Voici donc l'histoire de Clovis, telle qu'elle nous est racontée par Grégoire de Tours. Donc c'est un roi qui, à partir d'un tout petit royaume dans le nord de la Gaule, a réussi à occuper la plus grande partie de la Gaule et une bonne partie de la Germanie. D'autre part, par sa conversion au catholicisme, qui a beaucoup facilité d'ailleurs son succès, il unifie les deux éléments antagonistes de la population, c'est-à-dire les barbares d'un côté, surtout les Francs, et les Romains majoritaires de l'autre. Voyons maintenant ce qu'il advient de ce royaume après la mort de Clovis. C'est notre troisième partie, les Francs après Clovis. L'expansion franque ne s'arrête pas avec Clovis. Et vous pouvez en juger par les cartes que je vous ai données, les trois petites cartes qui nous indiquent différentes étapes de cette expansion. Je cite quelques points de repère. En 534, les fils de Clovis annexent enfin le royaume Burgonde, puis en 537, la Provence. De même, ils conquièrent le royaume de Thuringe dans les mêmes années et une partie des territoires des Alamans. Cependant, le royaume n'est pas unifié à cette époque. Au contraire, les fils de Clovis vont se partager le royaume. Vous pouvez regarder la première carte qui nous présente la réalité de ce partage en 511, en parallèle avec le tableau généalogique et avec le texte qui nous décrit, toujours selon Grégoire de Tours, l'un des partages, c'est-à-dire celui de 561. Alors d'abord, la première carte, le partage de 511. Vous voyez que ce partage est très curieux, puisque chacun des frères, il y a quatre frères, occupe deux parties de royaume. Mais ceci n'est pas fait au hasard. Chacun veut avoir une partie au nord du royaume, la partie intéressante, depuis longtemps acquise aux Francs, en gros entre le Rhin et la Loire. C'est là d'ailleurs que se trouvent toutes les capitales, Rhin, Soissons, Paris et Orléans. Et une autre partie au sud de la Loire, dans un territoire dont personne ne veut véritablement, car il n'a été conquis que très récemment, en 507, par Clovis. Ce sont donc de curieux royaumes en deux morceaux. À la génération suivante, on va retrouver à peu près la même situation. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les rois meurent, les survivants se débarrassent des descendants de ces rois de manière à éviter un émiettement trop grand. Si bien que le dernier fils de Clovis, Clotaire, en 558, se retrouve à la tête de l'ensemble du royaume. À ce moment-là, d'ailleurs, signalons-le, il choisit à nouveau Paris comme capitale. Le partage de 561 à sa mort vous est décrit à la fois dans la deuxième carte et dans le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous verrez dans le texte que le frère aîné, Chilpéric, essaye de s'emparer de l'ensemble du royaume. Il ne réussit pas. Et en fait, il est cantonné finalement à un petit royaume croupion dans le nord, alors que ses trois frères se partagent les parties intéressantes. Notons que le royaume est plus vaste à cette époque. En quelque sorte, le gâteau à partager est plus grand, ce qui facilite les choses. Et néanmoins, vous avez encore des royaumes en deux morceaux. Par exemple, le royaume de Sigebert, qui comprend la partie orientale sur le Rhin, et l'Auvergne. De même qu'une petite fenêtre sur la Méditerranée, car, entre-temps, les Francs se sont emparés de la Méditerranée, et les ports sur la Méditerranée les intéressent énormément, grâce aux droits de douane et qu'ils pourront retirer dans ces ports, et ainsi ils pourront bénéficier du commerce, qui est toujours important à cette époque. Mais bientôt des rivalités très importantes vont avoir lieu entre les différents frères. Il n'est pas question d'entrer dans les détails. Signalons seulement l'hostilité persistante entre deux familles issues de Chilpéric et de Sigebert. Dans ces royaumes issus de Chilpéric et de Sigebert, on trouve également deux reines qui vont jouer un rôle très important. Car Chilpéric et Sigebert avaient épousé deux sœurs, filles du roi des Visigoths Athanagilde. Mais l'une de ses sœurs est assassiné à l'instigation de Frédégonde, la maîtresse de Chilpéric. À partir de ce moment-là, s'installe une hostilité complète entre Frédégonde, épouse de Chilpéric, et Brunehaut, fille du roi Wisigoth, survivante et épouse de Sigebert. C'est une véritable haine familiale qui va se transmettre à travers plusieurs générations, et ces femmes en particulier n'hésitent pas à utiliser tous les moyens, y compris l'assassinat, pour en venir à leur fin. Je ne vous décris pas tous les épisodes, disons simplement que la plupart des antagonistes sont morts assassinés. C'est le cas en particulier d'abord de Sigebert en 575, puis de Chilpéric en 584. Celui qui succède à Chilpéric, c'est Clotaire II. On peut dire à partir de cette époque, à partir de la fin du VIe siècle, que ces deux royaumes antagonistes occupent deux régions bien déterminées, puisque Chilpéric a réussi à agrandir son propre royaume. Il s'est emparé de la part de son frère Charibert à sa mort en 567. Il occupe donc toute la partie nord-ouest, alors que Sigebert et ses descendants occupent toute la partie nord-est du royaume. C'est l'origine d'ailleurs des principales divisions qui vont apparaître petit à petit à la fin du VIe et surtout au VIIe siècle entre la Neustrie, la partie ouest, vous voyez sur la troisième carte, l'Austrasie, la partie orientale, et la Bourgogne, qui succède à l'ancien royaume Burgonde et qui est à partir de 561 la part de Gontran. Pour en revenir à la rivalité des deux rois et des deux familles, de Chilpéric et de Sigebert, c'est finalement Clotaire II qui va l'emporter et qui, en 613, va réussir à faire disparaître toute la famille adverse et en particulier Brunehaut. Il rétablit donc en 613 à nouveau l'unité de l'ensemble du royaume franc et choisit une nouvelle fois Paris comme capitale. Son fils, c'est le célèbre roi Dagobert. Vous voyez sur la troisième carte quelle est la situation à l'avènement de Dagobert. C'est-à-dire que Dagobert obtient l'essentiel du royaume en 629 et il ne laisse à son frère Charibert qu'une toute petite partie au sud de l'Aquitaine. Et d'ailleurs, il s'emparera de cette partie à la mort de son frère en 632. C'est la troisième réunification du royaume, et Dagobert, lui aussi, va choisir Paris comme capitale. Concluons ce chapitre sur l'expansion franque. Voyez comment Clovis, à partir d'un tout petit royaume, le royaume de Tournai, est arrivé a créé un royaume très important, et ses fils ont continué, malgré leur division intérieure, ils ont continué l'expansion inaugurée par leur père. Ceci dit, le régime établi à l'intérieur de ce royaume est un régime extrêmement anarchique, puisque les frères n'ont pas réussi à s'entendre, bien au contraire, et ce qui prévaut, c'est une guerre civile pratiquement continuelle, et finalement, cette situation va aboutir à un affaiblissement considérable de la royauté franque et, à longue échéance, à la disparition même de la dynastie mérovingienne au profit d'une nouvelle dynastie. Il s'agira bien sûr de la dynastie carolingienne.